Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter leur métier et découvrir ce qui les fait avancer au quotidien. Durant environ une heure, nous discutons de multiples sujets et de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est très simple, donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Féjean, analyste vidéo du Servette, le club de Genève. Nous sommes revenus sur son parcours, son doctorat sur l'émergence des comportements collectifs appliqués au football, ainsi que sur son arrivée en Suisse. Nous avons également évoqué son métier d'analyste, ses process de travail, son rôle dans l'analyse des adversaires mais aussi des performances des joueurs du Servette, et nous avons également évoqué l'importance de la data et des stats dans son travail au quotidien. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette conversation avec Mathieu Féjean. Bonjour Mathieu Féjean et bienvenue dans le podcast Prolongation.
Bah, merci pour l'invitation et puis bonjour.
Mathieu, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué ? Alors ça peut être par son scénario, par son résultat, par l'importance de la rencontre en elle-même, par une émotion que tu as pu ressentir lors de cette rencontre.
Alors ce match, c'est pas un bon souvenir. C'est, je dirais, la finale contre l'Italie en 2006 de l'équipe de France. Cette finale perdue un peu tragiquement. Et puis ouais, c'est un match auquel je repense assez régulièrement. Parce que c'est un moment où j'étais en famille, j'étais jeune, et c'est un des, je pense, j'ai quelques souvenirs de l'Euro 2000, mais j'étais vraiment petit. Et ce match-là, 2006, c'est vraiment le premier souvenir que j'ai. Un match difficile, et puis je pense que c'est la première fois que j'ai pas dormi après un match de foot, quoi.
Alors, on va y revenir dans quelques instants, mais puisqu'on va parler de ton parcours et de pas mal de, évidemment, de sujets. Mais la France 2006, comme l'Italie d'ailleurs en 2006, au final, c'est deux bons sujets d'intelligence collective. Cette notion de groupe qui est absolument capitale pour performer aujourd'hui. Quel souvenir, du coup, tu gardes de ces deux équipes? C'est franchement pas les deux plus spectaculaires de la compétition. Et c'est les deux qui se retrouvent en finale avec des groupes très très forts, avec de l'expérience, avec des vrais leaders. Et avec des, tu sais, la fameuse phrase, le groupe vit bien. Mais en tout cas, c'est quand on interroge les protagonistes de cette Coupe du Monde, à la fois du côté de l'Italie et de la France, c'est ce qui ressort vraiment. C'est des liens très étroits entre les joueurs.
Ouais, bah c'est évidemment essentiel pour performer. Bon, à cet âge-là, j'étais encore petit, donc je ne regardais pas les choses comme ça. J'avais simplement le plaisir du foot. J'avoue que là, je pourrais pas dire que c'était deux équipes avec une cohésion ultra ultra forte, mais je pense qu'elles avaient des leaders qui montaient l'équipe et puis qui étaient capables de faire que tout le monde adhère au projet de l'équipe. Et donc voilà, ça a donné ça avec un Zidane exceptionnel et puis d'autres joueurs qui arrivaient à l'entourer.
Alors Mathieu, on va essayer de comprendre comment un Nantais comme toi se retrouve aujourd'hui en Suisse à travers ton parcours, et puis on parlera dans quelques instants de ton métier d'analyste vidéo. Alors au départ, Mathieu, hein, puisque je me suis un peu renseigné, j'ai lu des interviews de toi, notamment sur le site du Servette.
Ouais.
Tu souhaitais être prof de sport.
Ouais. Alors, effectivement, moi, j'ai grandi dans une petite ville à côté de Nantes avec des parents profs et un papa prof de PS.
D'accord.
Et donc, ça naît sûrement de ça. Et puis, à la fin du bac, quand j'ai mon bac, j'étais loin d'être brillant. Et donc, je décide d'aller en STAPS un peu par défaut. J'aimais bien le sport. Et puis voilà, j'avais envie de continuer dans le sport. Et les premières études, années d'études, en fait, elles se passent plutôt bien. Et je décide, en fait, j'ai envie d'aller un concours qui s'appelle l'ENS. En fait, il y a aussi une section en sport pour l'ENS. Et puis là, j'arrête quasiment d'aller en cours à la fac et je travaille que ce concours-là, en fait.
D'accord.
Et donc, je le rate une première fois en étant admissible et non admis. Ça veut dire que je passe la sélection des écrits, mais je ne suis pas admis aux oraux. Et ça, une deuxième année d'affilée. Ça veut dire que j'ai été deux fois admissible, deux fois non admis. Donc à ce moment-là, je suis en troisième année. J'ai envie d'être prof. Et c'est vraiment un énorme échec pour moi de ne pas de rejoindre cette école-là. Et donc en fait, je décide un peu de tout arrêter, mais pas tout arrêter en partant en voyage, tout arrêter en partant en Erasmus, un peu sur un coup de tête, en Angleterre. Et puis de là, j'ai complètement arrêté l'enseignement et je suis parti faire de la recherche là-bas.
Voilà, donc derrière l'échec, la non-admission entre guillemets à cette école-là, tu t'engages dans un processus universitaire du coup, pour devenir chercheur évidemment, tu fais un doctorat du coup à Berne. Alors
Ouais.
Berne, pour ceux qui connaissent un peu la Suisse et la partie alémanique, la Suisse allemande,
Exactement, ouais.
et le sujet de ton doctorat, et c'est hyper intéressant, j'ai hâte que tu m'en dises plus sur ça, c'est l'émergence de comportements collectifs appliqués au football. Alors ça fait terme un peu scientifique et la sémantique scientifique fait tout de suite un peu peur aux gens, mais c'est un thème qui m'intrigue beaucoup. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu tes travaux, ces années-là, et ce qui est ressorti dans tes observations?
Ouais, alors c'est toujours assez difficile d'expliquer 3 ans de recherche assez dense en quelques secondes.
Clairement. Non, t'as le temps, hein, il n'y a pas de problème.
Ok, alors en fait, je me suis intéressé à un phénomène qui est à la fois fascinant, complexe, mais assez simple à comprendre. Ce phénomène, c'est l'émergence. Et l'émergence, en fait, c'est comment on passe de petites particules, d'éléments en interaction à une propriété de groupe. C'est-à-dire que comment on passe, par exemple, d'un poisson à un banc de poissons, comment on passe d'un spectateur à une hola dans un stade, comment on passe d'un joueur de foot à une équipe de foot. Et en fait, ce phénomène, il est assez fascinant. Pourquoi? Parce qu'au niveau du groupe, il y a des propriétés dont aucun des individus ne possède ces propriétés-là. Je m'explique rapidement. Si on est dans une salle de spectacle et qu'on se met à applaudir, il va y avoir une fréquence d'applaudissements et puis une certaine synchronie, si tout se passe bien, entre tous les spectateurs. Eh ben, il n'y a aucun des spectateurs qui est le maître de la synchronie et de la fréquence. C'est-à-dire que cette fréquence-là, qu'elle soit X ou Y, peu importe, c'est une propriété du groupe. Et toi, en tant qu'individu, t'es pas capable d'influencer sur cette fréquence, ou alors très peu. Donc en fait, ça c'est assez intéressant parce que ça signe de phénomène d'auto-organisation. Il y a des choses qui se passent sans qu'on comprenne vraiment comment ça arrive? Il n'y a aucun des poissons qui a conscience du banc qu'il est en train de faire, par exemple.
Est-ce que tu le rapproches de quelque chose de d'irréfléchi ou d'instinctif du coup?
Ouais, je pense que c'est quelque chose d'irréfléchi pour sûr. D'instinctif, je ne sais pas, l'instinct, c'est un phénomène ou une thématique que je ne maîtrise pas. Je pense qu'il y a plutôt que l'instinct des plans de la nature qui font que ça se passe comme ça. Et en fait, moi, mon objet d'étude, c'était le football. Et j'essayais de comprendre comment se passe cet état d'émergence, comment on passe du joueur à l'activité de groupe.
D'accord. Et qu'est-ce qui est du coup ressorti de tes années d'études? Quelles observations tu as pu faire sur les mécanismes, sur les process qui aboutissent à ce phénomène-là?
Alors, en fait, ce qui est intéressant quand on étudie ces phénomènes, c'est que on peut les contrôler, ces phénomènes-là. Et on peut aussi les évaluer, ça, avec certains paramètres. Moi, mon doctorat, il n'était pas du tout appliqué au football, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pour but de dire, ah oui, il faut entraîner les équipes comme ça ou il faut entraîner les équipes comme ça. Moi, il servait à changer le niveau d'interaction, c'est-à-dire qu'on changeait la façon dont les joueurs interagissaient entre eux, par exemple, soit en restant à une distance d'un partenaire et puis de proche en proche, ça fait un maintien de distance de toute l'équipe, soit en ayant un niveau plus global de vue sur l'équipe où on essaye par exemple d'aller dans les espaces vides. Donc on changeait le niveau d'interaction comme ça et on regardait avec des métriques, ce qu'on appelle des métriques, ça veut dire des équations qui rendent compte du comportement du groupe. Donc par exemple la surface développée par l'équipe, le centre de gravité de l'équipe, toutes ces choses-là qui sont plutôt mathématiques mais qui n'ont pas d'implication directe en termes d'entraînement. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que globalement, quand les joueurs se régulent localement, c'est-à-dire seulement à un autre joueur, ça veut dire que si je fais rien d'autre que suivre un autre joueur, eh ben, il y a des propriétés dans l'équipe qui sont différentes que quand je me régule pour aller dans les espaces vides. Voilà l'enjeu.
D'accord, on est un peu dans cette image qu'une équipe de foot, au final, c'est un grand précepte raconté un peu par tout le monde, mais qui est vrai aussi. C'est pas une addition de 11 joueurs en tant qu'individu, mais bien un collectif où cohabitent des individus, donc des joueurs, dans le cas appliqué au football, qui peuvent être très différents, avoir un parcours de vie différent, des nationalités différentes, des langues différentes, et toute la difficulté, au final, pour un staff, entre guillemets, pour un entraîneur en particulier, réside dans le fait de réussir à construire ces liens dont tu parles, ces connexions entre les différents joueurs.
Ouais, exactement. L'un des idées qu'a construit ce doctorat, c'est l'idée de dire que le groupe, c'est plus que la somme des parties. Donc, le groupe, c'est plus que la somme des individualités. Et puis, ça naît de certains exemples. Par exemple, la défaite du Brésil contre l'Allemagne, 7-1-1, bah, ça reste un naufrage collectif, alors qu'individuellement, ils étaient tous présents, quasiment les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Et puis, à côté de ça, il y a la Grèce qui est championne d'Europe en 2004, si je ne dis pas de bêtises,
Oui.
avec aucun joueur, enfin, je veux dire, je me rappelle d'aucun joueur de cette équipe-là, par exemple. Donc, il s'est bien passé quelque chose pour qu'ils deviennent champions d'Europe. Et puis, il s'est aussi passé quelque chose pour que ce soit un naufrage collectif pour le Brésil.
Alors j'ai vu il y a quelques jours une vidéo d'Hakim Ziyech, le joueur de l'Ajax, qui faisait une rétrospective de ses 4 années à Amsterdam, vu qu'il quitte le club pour aller à Chelsea cet été. Et quand on lui a demandé un peu les raisons de la réussite de la saison 2016-2017, donc c'est la fameuse saison demi-finale, avec la finale, pardon, d'Europa League contre Manchester United, sa seule explication, sa première explication, qui a d'ailleurs été la seule, c'est de dire que le groupe était composé d'amis et que ça avait matché instinctivement entre des personnes de divers horizons, de diverses nationalités, et que quand on atteint cette forme, apothéose, c'est un grand mot, mais des
D'émergence.
connexions, ouais, d'émergence, de connexions aussi fortes entre plusieurs individus dans un groupe, les aspects footballistiques, finalement, y suivent forcément. C'est-à-dire que tout part du collectif, des connexions, des liens qu'établissent les joueurs entre eux. Ça, c'est une situation idyllique, en fait. En gros, Ziyech dit, ça a marché, ça a matché même totalement dès le départ. Il peut pas l'expliquer, il dit juste c'était comme ça et ça nous a servi durant toute la saison. Si c'est pas le cas, si ça matche pas comme ça, quels sont les moyens au final d'influencer la construction, l'élaboration un peu de ces connexions et de ces liens entre les joueurs? Comment on peut réussir à influer sur l'élaboration de liens entre les joueurs?
Alors là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça, par exemple, la cohésion ou les connaissances partagées par l'équipe, c'est ce qui se passe avant le match. Si tu veux, il y a ce qui se passe avant le match, ce qu'on développe avant le match, le team building, la cohésion, le leadership, tous ces phénomènes, en fait, ils ne se construisent pas pendant le match, ils se construisent avant. Et après, moi, par exemple, mon doctorat, c'était vraiment sur les phénomènes qui se passent pendant le match. Ça veut dire que c'est dénué de toute cohésion et tout ça. Donc, si
D'accord.
jamais on n'a pas de cohésion dans un groupe, qu'on n'a pas de leadership, qu'on n'a pas de connaissances partagées, parce qu'on sait que c'est des clés de la performance, alors on n'a plus qu'à se rattacher, pardon, à ce qui se passe pendant le match. Et ce qui se passe pendant le match, c'est des interactions. Et donc, il faut réussir pour moi à comprendre ces interactions, quel joueur interagit avec quel autre joueur, comment se passe cette interaction. Et il faut réussir à les mettre en œuvre. Je vais donner un exemple qui sort un peu du foot, mais par exemple, si on a un banc de poisson, c'est trois choses. Avec trois règles d'interaction, on crée un banc de poisson. Il faut que chaque poisson suive un autre poisson, qu'il aille à peu près à la même vitesse que lui, et qu'il essaye troisièmement, d'être entouré d'autres poissons. Ça veut dire qu'avec ces trois règles d'interaction, si on simule ça sur un ordinateur, on aura quoi qu'il arrive un banc de poissons. Bon, ça, c'est un peu éloigné du foot, mais si on retourne au foot, si le coach il veut voir des choses au niveau du collectif, eh ben, il peut trouver ces règles d'interaction qui, même sans cohésion, feront que l'activité collective va arriver.
Mais est-ce que ça dépend pas quand même un peu du hors-terrain, puisque toutes ces interactions sur le terrain, elles découlent aussi d'une part de l'envie de suivre et de si je prends par exemple une phase précise de jeu, le pressing. Puisqu'on parlait de bancs de poissons tout à l'heure, j'imaginais des poissons en train de faire un pressing dans l'eau, mais l'idée c'est quand tu fais un pressing, il faut que tout le monde interagisse en même temps, du coup sur le terrain, sinon ton pressing il est inefficace. Et il y a quand même une part de psychologie là-dedans, c'est-à-dire vouloir faire partie d'un collectif et vouloir, vulgairement on dit, se faire mal pour un coéquipier par exemple. C'est-à-dire vouloir accompagner son coéquipier. Si on prend des zones précises de terrain, latérales, ailier par exemple, faut que les deux soient vraiment hyper connectés entre eux. Et par exemple, c'est plus compliqué, j'imagine, de réussir ces connexions sur le terrain si les deux ne s'entendent pas du tout. En hors terrain ou dans la vie hors football, en fait.
Ah oui, ouais. Non mais oui, clairement, je veux dire, c'est un phénomène très complexe, on ne peut pas dissocier les caractères motivationnels, émotionnels, les relations humaines du jeu. Ce n'est pas des robots, les joueurs. Donc effectivement, même si on met les meilleures interactions sur le papier, il faut qu'il y ait une alchimie qui se passe pour que chacun soit dévoué l'un pour l'autre. Mais après, moi, ce qui est important pour moi, ou ce que j'essaye de comprendre, c'est que en fait, c'est une boucle récursive ou itérative entre ce que le joueur apporte au collectif, mais ce que le collectif apporte en retour au joueur. Je m'explique. Si le collectif il est performant, les joueurs ils vont automatiquement rentrer dans une dynamique de performance. Et la dynamique de performance du joueur, elle va de nouveau améliorer le collectif. Et tout ça, en fait, ça s'entretient pour créer quelque chose de mieux en mieux.
Et
Donc
c'est
même s'ils
aussi.
s'entendent pas, ouais.
Vas-y, je te laisse finir, je t'en prie.
Donc même s'ils s'entendent pas, eh bien, si au niveau collectif il y a des choses qui se passent, à un moment donné, ça va retomber. Et au niveau individuel. Et je veux juste parler d'un petit exemple qui est, à mon avis, très significatif et très actuel. Je ne sais pas si tu as vu The Last Dance
Oui.
sur
Michael Jordan.
Netflix, mais il y a un moment où il change complètement de paradigme où tout était lié autour de Jordan. Voilà. C'était lui qui avait le ballon et tout ça. Et le coach, il change ça et il dit on va passer à des interactions avec ce qu'il appelle le triangle offense. Bon, bref. Et puis ça, Jordan, il n'accepte pas du tout au début parce que lui, ce qu'il veut, c'est le ballon dans les mains. Mais quand il comprend que cette interaction-là, elle fait grandir le collectif et que ça va le faire en retour grandir lui-même, eh ben voilà, c'est juste pour montrer que ces interactions, ça aide le collectif d'une part, mais en retour, ça aide aussi l'individu.
Et justement, ça peut expliquer ce phénomène-là. Tu sais, quand on a des collectifs très forts et qu'on sort des éléments de ce collectif-là et qu'on les envoie dans d'autres situations, dans d'autres clubs, quand on l'applique au football, il peut y avoir des surprises, entre guillemets, où on se dit, mais comment ce joueur qui était si performant dans cette équipe-là se retrouve aujourd'hui en difficulté dans un autre groupe?
Bah ouais, c'est clair, c'est d'une complexité énorme. Je sais pas à qui tu penses en disant ça, peut-être à Griezmann, je sais pas.
Par exemple.
Ouais, donc je pense que c'est un phénomène tellement complexe je pense pas qu'il y a de réponse ultime à ça. Est-ce qu'il s'entend bien avec les coéquipiers, je sais pas. Est-ce qu'il joue pas pour lui, je sais pas. Je connais pas les dynamiques de
Mais en tout
groupe.
cas, il a perdu un peu c'est même pas un peu, il a perdu totalement les dynamiques qui avaient été créées à l'Atlético et dans lesquelles il était, justement, pour reprendre la thématique du poisson comme un poisson dans l'eau.
Ouais.
Et là, il se retrouve dans d'autres dynamiques de groupe où il faut s'insérer, il faut réussir à comprendre tous les mécanismes. Et c'est là où on a des difficultés et c'est là aussi où il faut que les gens, le grand public comprennent que on prend pas juste un joueur dans un club pour le mettre dans un autre club, et il va être le même en fait. C'est là où il faut réussir à avoir le recul pour comprendre les processus d'intégration, les processus de cohésion, les processus de mise en application des idées globales à lui-même, à ce joueur qui arrive. Et donc c'est là où il faut essayer d'avoir un peu plus de recul et pas juste dire Bon bah il est nul cette saison, il est nul cette saison, c'est plus complexe que ça en fait.
Ouais, je pense effectivement que c'est bien plus complexe que ça et que le talent de Griezmann n'est, à mon avis, pas du tout à remettre en cause. C'est juste que l'environnement dans lequel il interagit en ce moment ne lui permet pas d'être à son top level, quoi.
Alors, tu es arrivé en début de saison au Servette pour être analyste vidéo de l'équipe première. Alors, derrière ce métier, on le verra un peu plus tard, il n'y a pas que le visionnage de séquences vidéo, mais tout un travail pour améliorer la performance de l'équipe. Déjà, est-ce que tu peux nous dire comment s'est faite la connexion entre le Servette et toi après ton doctorat, du coup?
Alors, en fait, ils m'ont aidé pendant le doctorat déjà, parce que, en fait, moi, je récoltais des données sur les joueurs, donc ce qu'on appelle des données de position, c'est-à-dire j'essayais de savoir où ils étaient à chaque instant pour pouvoir faire les équations, comme je disais au début. Et donc, en fait, j'ai eu une relation un peu privilégiée avec eux, où je venais au stade, j'avais un système de caméra pour pouvoir récolter ces données-là. Et puis, voilà, je me suis bien entendu avec le team manager. Et à la fin de mon doctorat, je leur ai envoyé un petit message pour les remercier de m'avoir aidé. Et puis, s'ils avaient quelque chose pour moi par hasard, voilà. Et puis, ils m'ont dit non assez rapidement. Et puis, finalement, ils m'ont rappelé 15 jours après en disant, voilà, on a quelque chose pour toi. Est-ce que ça t'intéresse? Viens nous voir. Et puis, voilà, j'ai pris cette décision assez rapidement après mon doctorat. Voilà, ça s'est fait comme ça.
Alors dans tes missions aujourd'hui, il y a deux volets sur l'analyse vidéo. Il y a d'abord l'analyse de l'adversaire et ensuite l'analyse des joueurs du Servette, du coup, de ton club. On va commencer par les adversaires et puis on parlera de ton travail sur le club du Servette en particulier.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer tes process de travail quand tu observes les adversaires du Servette? En gros, à quel moment tu les observes? Combien de matchs tu regardes pour faire tes recommandations? Comment tu séquences ton analyse vidéo, etc.
Donc ça, en fait, c'est la phase où moi, l'objectif, c'est un peu de la prédiction, même si c'est très difficile la prédiction, mais c'est le moment où je dois donner le maximum d'informations au coach pour qu'il prépare au mieux la rencontre. Souvent, on a tendance à dire qu'il faut limiter les informations, donner les meilleures informations et tout ça. Moi, sur cette partie-là, j'avoue que j'essaye de faire un travail quand même assez exhaustif. Ça comporte tout sur les adversaires, quand est-ce qu'ils marquent, à quel moment, quand est-ce qu'ils mettent de l'impact physique. Donc c'est vraiment très large, j'essaye de collecter un maximum de choses.
Je me permets de te couper un instant, Mathieu, parce que
Ouais.
j'ai vu une vidéo d'Arsène Wenger qui date de 2019, je crois.
Ouais.
C'était une conférence, je me rappelle absolument plus dans quel cadre c'était.
UCI, non?
Ouais, exactement, c'est ça. Et il expliquait justement le travail de l'entraîneur en disant, mais aujourd'hui, un entraîneur de haut niveau, c'est 25 personnes dans le staff. Et il expliquait, un entraîneur, au final, il doit, son métier aujourd'hui, prendre des décisions en fonction de toutes les informations qu'il récupère de la part de ses adjoints, de ses analystes vidéo, de ses kinés, des préparateurs physiques, etc. Il disait qu'il y avait une somme d'informations qui était considérable et
Ouais.
que lui, son but, c'était de piocher les indispensables, entre guillemets, les plus importantes pour ensuite les transmettre au groupe. Donc voilà, c'était un peu pour son idée de quantité de data où effectivement, toi, ton boulot, c'est effectivement de faire remonter beaucoup de choses et après, l'entraîneur pioche évidemment en fonction de ce que tu lui dis, de ce que va dire le préparateur physique, le kiné, d'autres préparateurs, etc., pour ensuite transmettre son message aux joueurs.
Ouais, exactement. Alors, quand je dis un grand nombre d'informations, ça n'enlève pas la qualité de chaque information
Bien
qu'il
sûr.
donne. Donc c'est beaucoup d'informations, mais beaucoup de qualité. Et après, c'est lui qui, dans ses informations, fait les choix qui lui semblent les plus justes. Donc voilà, donc ça, c'est une partie. Ensuite, comment je fonctionne? Alors, c'est probablement un peu différent des autres analystes vidéo. Mais globalement, moi, je regarde trois matchs, on va dire, de l'équipe adverse, les trois derniers matchs, mais sans faire de découpage vidéo, sans avoir un œil très très attentif, avec quelques prises de notes, ok. Mais j'essaye de vraiment d'avoir juste un aspect global de la rencontre. Après, une fois que j'ai fait ça, j'ai la chance d'avoir des data providers qui nous envoient beaucoup beaucoup de données sur les événements du match. Et donc moi ensuite, j'arrive à sortir des rapports ou des graphiques, un tas de choses qui vont permettre de trouver en fait ce qu'on appelle des patterns, ça veut dire des récurrences dans les comportements des adversaires. Donc, je dessine par exemple les réseaux de passes, je dessine les passes qui font qu'ils arrivent dans les 40 mètres, je dessine des tas de choses comme ça. Et puis, j'essaye de trouver les récurrences. Et donc, au final, moi, la vidéo, après, c'est une fois que j'ai trouvé ces récurrences, je retourne dans la vidéo pour montrer ces récurrences au coach.
D'accord. Et est-ce que tu... Là, on parle de l'analyse collective de l'adversaire,
Ouais.
mais est-ce qu'il t'arrive de faire des focus individuels que tu peux transmettre, alors soit directement à l'entraîneur, soit au joueur? Par exemple, je te prends un exemple tout bête, hein, mais un numéro 9 adverse qui fait des mouvements particuliers, par exemple qui décroche, qui prend la profondeur avec des types d'appels différents. Et est-ce que tu fais ce type de travail-là aussi et que tu transmets ensuite, alors je sais pas, au joueur ou à l'entraîneur?
Ouais, alors ce travail individuel, j'avoue qu'il est moins basé sur la data. Le data provider nous produit des images avec différentes thématiques sur les joueurs, donc je les utilise beaucoup. Et puis, je transmets peu ça au coach, tout simplement parce qu'en Suisse, il n'y a que 10 équipes et que, il connaît très très bien tous les joueurs, donc il apprend plus grand-chose de moi sur ça.
D'accord.
Par contre, effectivement, je donne beaucoup aux joueurs sur ça. Alors, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais moi, je fonctionne très peu par relation individuelle. Si tu veux, on entend souvent dire que un joueur s'occupe d'un joueur, et puis je vais montrer à un joueur comment fonctionne un attaquant, par exemple un défenseur, comment fonctionne un attaquant. Donc moi, je fais un peu différemment. Je fonctionne sur l'analyse des joueurs adverses plutôt avec des triangles ou des lignes. Par exemple, si je me montrais, je sais pas. Quelqu'un qui rentre, qui joue à droite, qui rentre sur son pied gauche, un attaquant adverse, eh ben, je vais le montrer à mon latéral, au défenseur central et à l'ailier. Du coup, j'ai un groupe WhatsApp où il y a ces trois gars-là et je leur envoie la même vidéo. Comme ça leur permet de discuter comment on va s'organiser pendant le match et tout ça. J'ai aussi un groupe WhatsApp avec la ligne de défense. Voilà. Ça leur permet de discuter quand ils sentent nécessaire pour s'organiser et pas que ce soit simplement des relations individuelles, quoi.
Et du côté du Servette, cette fois, dans l'analyse que tu fais des performances des joueurs du Servette, est-ce que tu fais aussi un travail collectif et individuel, et est-ce que tu pars en gros du plus général sur les consignes globales de l'entraîneur, bien fait ou mal fait d'ailleurs, hein,
Ouais.
et ensuite tu réduis le cercle au fur et à mesure avec des situations de plus en plus précises, des mouvements, etc. Est-ce que tu fais une analyse d'abord globale et ensuite tu réduis ce cercle pour aller dans le plus spécifique à chaque fois?
Alors ça, donc là, ça c'est la première partie de la semaine, donc je fais plutôt de la prédiction sur le match et juste après le match, je fais une partie plutôt évaluative. Alors en fait, moi, comment je fonctionne? Je fais pas vraiment de bilan de chaque match avec un montage vidéo du match, mais on fonctionne plutôt avec des bilans des principes de jeu. Ça veut dire qu'une semaine, on va traiter un principe de jeu et puis on va prendre deux ou trois matchs avant. Du coup, quand on arrive et qu'on fait la vidéo avec le groupe le mardi matin, souvent, eh ben, on va traiter d'un principe de jeu qui reprend les trois derniers matchs, quoi, on va dire. Du coup, on n'est pas vraiment focus sur le dernier match.
Et par exemple, un principe que tu as pu faire, alors là les championnats malheureusement sont arrêtés, mais pour donner un exemple un peu aux auditeurs d'un principe particulier sur lequel tu peux insister à l'instant T sur les 3 ou 4 dernières rencontres, qu'est-ce que tu donnerais comme exemple?
Eh bien, par exemple, on peut regarder les sorties de ballon de notre gardien, comment on sort le ballon, on peut regarder notre verticalité, on peut regarder nos seconds ballons, on peut regarder. Donc après, je ne vais pas balancer les principes de jeu
Bien sûr, bien
de nos
sûr.
trucs, mais c'est ces thématiques-là que l'on peut traiter. Et en fait, souvent, on essaye de les agencer. Par exemple, si on travaille sur la sortie de ballon de notre gardien, eh bien, souvent, ça va avoir un impact sur un duel puis un second ballon. Du coup, ça crée un fil conducteur et puis on essaye de voir comment on peut améliorer cette sortie, comment on peut améliorer notre second ballon, comment on améliore nos placements et d'autres principes comme le pressing et tout ça. Mais en fait, l'idée, c'est de ne pas faire du zapping didactique ou pédagogique et de ne pas dire, OK, on va regarder le match et puis on va voir. Le dégagement, le pressing, et toutes ces actions qui s'enchaînent, et finalement, on n'a pas retenu grand-chose. Nous, on essaye de sélectionner une thématique et puis on traite vraiment de cette thématique.
Et comment tu places la jauge entre montrer ce qui a été bien fait et montrer ce qui a été amélioré? Comment tu réussis à faire cette balance entre... Parce qu'il y a toute une part de psychologie aussi, montrer ce qui est bien fait pour rassurer, pour améliorer, entre guillemets, la confiance, entretenir la confiance des joueurs plutôt. Et puis il y a la partie ce qui est moins bien fait pour les garder alertes, pour leur montrer encore toute la progression qu'il y a à faire. Comment tu réussis à faire la balance dans les séquences vidéo que tu choisis?
Ouais, alors ça, c'est un travail que je fais pas tout seul, que je fais souvent avec le coach. Ils m'aident beaucoup là-dessus. Mais globalement, on a une idée qui est assez claire sur ça, qui est assez basique. C'est l'idée de montrer quelque chose de bien, quelque chose à corriger et quelque chose de bien.
D'accord.
Voilà, donc
Ok.
c'est pas révolutionnaire. Mais voilà, et puis les joueurs, ils sont quand même alertes à la critique. Voilà, ils sont. Évidemment, il y a des égos, il y a des choses comme ça. Mais ils sont tous là pour progresser et puis ça reste leur métier. Donc voilà, enfin, globalement, ça se passe toujours bien, ces séances constructives.
Alors Jean-Marc Furlan, qui était le premier invité de ce podcast, nous expliquait que les jeunes joueurs étaient très à l'écoute des conseils, notamment fournis en vidéo, parce qu'ils étaient habitués aux écrans depuis longtemps. Est-ce que tu as ce même retour quand tu fais des... Tu parlais tout à l'heure de ta communication via WhatsApp, par exemple, en fournissant des clips vidéo à des groupes de joueurs par ligne ou par zone occupée sur le terrain.
Ouais.
Quel retour ils te font là-dessus? Tu les sens vraiment très à l'aise avec la vidéo, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent, qu'ils comprennent bien, etc.
Ouais, franchement, moi personnellement, je vois pas trop de différence. Alors peut-être que c'est mon manque d'expérience qui fait ça et que je me rends pas compte quand je leur renvoie un message, je me rends pas compte de leur réaction souvent. Donc, ouais, je vois pas de différence entre les jeunes et les trentenaires, par exemple, si on les considère comme les plus vieux dans mon équipe. Après, non, franchement, je vois pas de différence, moi.
Est-ce qu'ils sont demandeurs? Alors là, sans parler de différence d'âge, mais est-ce que le groupe est réceptif et est demandeur de... Est-ce qu'il y a par exemple un joueur qui peut passer à côté d'un match, par exemple, et qui pourrait venir te voir en disant bah, je voudrais voir comment ce joueur-là m'a mis en difficulté. Est-ce que tu peux me clipper quelques actions pour m'améliorer? Ou est-ce qu'il y a un travail comme ça? Ou par exemple, je sais pas, un gardien qui viendrait te voir en disant bah, est-ce que tu peux montrer où les derniers pénaltys tirés par l'attaquant qu'on va affronter cette semaine? Ou est-ce qu'il y a non pas une communication seulement verticale de toi au joueur, mais est-ce que les joueurs peuvent aussi venir te voir et est-ce qu'ils le font?
Ouais, ils le font. Alors ça dépend vraiment des individus. Alors déjà, il faut savoir que moi, systématiquement, après chaque match, ils ont tous une vidéo de leur propre match. Ils ont
D'accord.
tous une vidéo de leur propre match et du match entier. Donc, et puis moi, je sais à peu près s'ils regardent ou s'ils regardent pas. Donc, je vois tout de suite ceux qui sont plutôt intéressés et puis ceux que ça intéresse pas. Mais encore une fois, il n'y a pas de jugement sur ça. Ils sont tous grands. Ils ont tous une gestion de leur performance qui est au top. Donc voilà, ça reste un plus et puis moi j'essaye de les aider comme ça. Ensuite, effectivement, une fois qu'il y a ça, il y en a qui ont plus de questions, qui veulent savoir plus de choses. Et puis là, bah voilà, je suis toujours à leur écoute. Moi, c'est quand j'ai ce genre de questions, j'arrête tout. C'est ma première mission, c'est de répondre à leurs besoins. Donc quelle que soit la chose que je suis en train de faire, quand j'ai ce type de demande, voilà, je suis à leur écoute. Après, ça reste très ponctuel et irrégulier, quoi. Il n'y a pas de routine là-dedans, il n'y a pas de process du tout.
D'accord. Puisqu'on parle d'analyse vidéo, l'image grand public de l'analyste vidéo, c'est un mec collé à son écran toute la journée, qui ne fait que regarder des vidéos pour déconstruire un peu du coup ce cliché ou ce mythe, je sais pas trop quel mot utiliser. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec l'entraîneur, Alain Geiger,
Ouais.
l'entraîneur du Servette? Comment vous fonctionnez? Comment tu lui fais remonter tes observations? Et ensuite, par exemple, si tu interviens dans la transmission des remarques aux joueurs où c'est vraiment son domaine à lui, est-ce que parfois il t'arrive d'aller par exemple sur le terrain pour assister l'entraîneur sur des recommandations que tu as pu faire ou des choses comme ça?
Alors ce mythe, il est quand même assez vrai, hein, globalement. Moi, j'essaye d'aller sur le terrain au moins 2 fois par semaine pour garder du contact avec les joueurs et que je ne sois pas un ermite dans le club. Donc voilà, en général, j'y vais quand le travail de l'adversaire, il est bien fait. Donc j'y vais souvent à J-1 ou J-2 avant le match. Et donc, ma relation avec Alain, elle est très saine. Il est vraiment exceptionnel avec moi. Il me laisse beaucoup de liberté. Et puis, voilà, quand il a des remarques, il me les fait. On échange beaucoup sur les matchs, sur les thématiques. En fait, c'est lui qui fait vraiment ma culture tactique, footballistique, parce que c'est vraiment un manque que j'ai dans mon travail. Voilà, après lui, je pense qu'il n'avait pas besoin du tout d'un tacticien à côté de lui. Il a ses idées et puis je suis pas là pour lui changer ses idées ou pour lui donner d'autres idées. Je suis là pour lui faciliter la prise de décision. Donc une fois que ça c'était clair dans notre relation, voilà, on regarde beaucoup de matchs ensemble. Je lui donne des informations de manière assez routinière et puis avec des process. Donc, tout ça, ça se passe très bien. Après, tu me parlais des interventions aussi. Ça, c'est vraiment son domaine. Je prends jamais la parole devant le groupe quand il est là. Même quand il n'est pas là, j'ai jamais pris la parole devant le groupe. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça dans tous les clubs. Mais en tout cas, ce n'est pas mon rôle dans ce club-là.
Alors, on parlait de ton travail en amont des matchs, après les matchs. Est-ce que tu as un travail particulier le jour de match? Est-ce que tu accompagnes l'équipe? Est-ce que tu, par exemple, tu visionnes le match en tribune? On sait que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, d'avoir une voire deux personnes. Alors, ça peut être un adjoint, des analystes vidéo qui ont la retransmission du match directement sur ordinateur en tribune et qui peuvent commencer à compiler des clips pour parler à l'entraîneur à la mi-temps, voir des choses à corriger. Est-ce que toi, tu as un travail particulier là-dessus, à ce moment-là surtout?
Alors,
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nous, on a fait le choix de pas mettre de clip à la mi-temps. Voilà, c'est un choix qui se justifie par des fois le manque technologique, le manque logistique et puis aussi le temps accordé aux joueurs. Voilà, on juge que ça va pas leur apporter grand-chose, que le discours est suffisant. Voilà, ça pourrait être à discuter. Ensuite, moi, pendant le match, alors je vais pas parler de moi, là, je vais faire un petit point sur les data, sur les vidéos analyses, pardon, pour que les gens comprennent mieux. Il y a beaucoup de vidéos analyses qui font pendant le match du séquençage. Donc en fait, on a un panel de tagging, c'est comme ça que ça s'appelle, et puis on clique sur des boutons pour référencer les actions en fonction de ce qu'on veut voir. Et ce travail-là, logiquement, il facilite le séquençage du match après le match. Donc, si par exemple le coach il demande de voir toutes les actions offensives, et ben si sur votre panel de tagging vous avez cliqué action défensive, vous allez voir toutes les actions offensives automatiquement. Moi, j'ai la chance d'avoir un data provider qui fait tout ça pour moi, et donc en fait j'ai pas à le faire ce travail de tagging. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de me rapprocher le plus possible des principes de jeu du coach et j'essaie de trouver des éléments des data events qui sont différents de ce que le tagging fait habituellement et ce que produit le data provider pour avoir des éléments en plus. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je peux faire un peu de choses sur le packing, sur la verticalité, sur les réseaux de passes, sur ces choses-là.
On vient de parler donc de tout ce qui est analyse vidéo, donc ton job au quotidien. L'analyse vidéo, c'est l'observation des événements, des matchs, avec tous les biais cognitifs qu'il peut y avoir. C'est une partie plus subjective, on va l'appeler un petit peu comme ça. Et il y a
Ouais.
une partie un peu plus détachée, qui est moins dans l'émotion, moins dans l'instant, qui est liée, et t'en as parlé avec les fournisseurs de stats, qui est liée donc à la data et aux stats. Comment, dans ton job au quotidien, tu réussis à mixer ces deux sphères, c'est-à-dire en gros, hein, pour faire simple et pour vulgariser un peu, entre la subjectivité d'une observation et l'objectivité des stats? Comment tu réussis à faire le juste mix entre les deux?
Ouais, c'est une question difficile. Bon, déjà, il faut être clair là-dessus. C'est ultra complémentaire. L'un ne peut pas marcher sans l'autre. et vice-versa. Moi, avec mon passé de pseudo-scientifique, on va dire, voilà, j'ai quand même une grosse tendance à aller dans les data et à avoir conscience que mon œil, il est biaisé pendant le match, surtout par le fait que j'ai un manque d'expérience à ce niveau-là et que quand je regarde un match de foot, eh bien, moi, j'ai mes émotions qui parlent et puis je retiens des événements.
Ouais.
Et retenir des événements singuliers, ça n'a rien à voir avec essayer de prédire ce qui va se passer. Donc, c'est pour ça que moi, je mets un gros focus sur la compréhension des datas. Après, voilà, comme on en discutait dans le précédent podcast, le scout se faisait le biais inverse, c'est-à-dire qu'il était influencé par la data. Et puis, il préférait pas regarder les datas pour que son œil, mais c'est sûrement qu'il avait une grande expérience. Donc voilà, moi, j'essaye évidemment de regarder des matchs, d'améliorer mon expérience là-dessus, d'améliorer ma compréhension tactique du match qui est en train de se faire. Et puis, je complémente ça avec mes qualités qui sont comprendre les données, quoi.
Et donc du coup, tu penses qu'avec plus d'expérience, la balance ou la bascule entre la data et tes observations sera un peu plus équilibrée, entre guillemets. C'est l'expérience qui fera que tu pourras un peu plus t'appuyer, entre guillemets, sur tes observations.
Ouais, je pense que l'expérience, c'est un point essentiel. Je connais quelques scouts, recruteurs qui n'utilisent pas du tout de data. Ils font un travail exceptionnel. Donc voilà, c'est vraiment une vision du travail qui est différente, qui n'a pas pour but d'être jugé en bien ou en mal. Voilà, c'est simplement une posture. Si on regarde certains clubs anglais comme Brentford, par exemple, où ils font plus d'œil du tout, mais que de la
Ouais.
data. Ils recrutent les joueurs sur de la data. Bon, bah voilà, c'est une posture scientifique qui se tient. Et après, il y a aussi une posture rationnelle qui fait que l'expérience parle aussi, voilà.
Alors, tu réalises sur Instagram un gros travail pédagogique et didactique, même sur les stats dans le foot, à travers des vidéos explicatives que je recommande. Redonne-nous ton nom Instagram, entre guillemets, ton compte Insta.
C'est perform.analytica.
Voilà, alors je recommande vraiment pour les amateurs de foot et pour mieux appréhender le monde de la data notamment, on parle pas que de data d'ailleurs, mais tu parles beaucoup de data évidemment, puisque c'est dans ta sphère et dans ton job, tu parles beaucoup de la bonne utilisation des data. C'est peut-être une chose qu'on a à améliorer, parce que la data est très jeune, appliquée au football. Ce que disait Enzo Djebali dans le précédent podcast, c'est que la data appliquée au football, elle est très jeune, là où dans les sports US, elle est utilisée depuis très longtemps et elle est beaucoup plus poussée que dans le football européen à l'heure actuelle, et notamment dans le football français. Tu donnais un exemple dans certaines vidéos, j'en prends un parmi d'autres, hein. Parler de pourcentage d'arrêt pour un gardien de but, toi tu estimes que c'est pas suffisant dans l'analyse qu'on doit faire des performances des gardiens.
Alors cet exemple-là, il est assez parlant. Après, en fait, pour moi, par exemple, ce pourcentage-là, il prend pas en compte la qualité du tir. Donc un gardien qui ferait 100% d'arrêt avec des frappes à 30 mètres, ce serait évidemment différent d'un gardien qui fait 50% d'arrêt, mais c'est que des pénalties. Donc pour moi, il est important de comprendre la qualité du tir pour
Bien
évaluer un
sûr.
gardien. Après, par exemple, sur ça, j'ai eu un échange avec Jérémy Janot sur LinkedIn qui n'est pas du tout d'accord avec moi. Donc,
Ouais.
encore une
Alors, il
fois,
est l'entraîneur des gardiens de Valenciennes en Ligue 2.
ouais, exactement. Et donc, encore une fois, il faut bien prendre dans les datas ce qu'on veut et puis essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, et puis il n'y a pas de. Je pense pas qu'on puisse dire c'est comme ça, et puis c'est pas tout noir ou tout blanc, je veux dire. Même la data, c'est pas tranché. Du coup, si lui, il préfère utiliser cet indicateur-là, voilà, j'ai pas de remarque particulière sur ça, quoi.
En gros, c'est comment on utilise la stat et jusqu'où on va dans l'analyse de la stat. C'est soit on garde quelque chose d'assez générique, soit on affine ce libellé, là, le pourcentage d'arrêt, soit on l'affine en regardant, bah, pourcentage d'arrêt, c'est une donnée, effectivement, on peut la prendre en compte, c'est un indicateur, mais derrière, on peut aller chercher par exemple ce qu'on appelle les expected goals against. Donc c'est en gros on va essayer de simplifier ça pour les auditeurs qui sont pas forcément spécialistes, mais ce sera en gros la qualité des occasions des adversaires. Je suis à
Ouais.
peu près bon là-dedans, la
Ouais,
qualité
exactement. C'est
des
en gros,
occasions.
c'est la probabilité qu'un tir adverse finisse au fond des filets, quoi.
Voilà, et ça permet de voir aussi dans les arrêts, qui est une catégorie, on va dire. On va essayer de schématiser ça comme ça. C'est une catégorie, et dans la catégorie, il y a des sous-catégories. Et c'est un peu cette idée-là, en disant, bah, OK, il y a les tirs adverses, et en sous-catégorie, il y a la qualité des tirs adverses, avec des indicateurs. Est-ce qu'il était loin du but, proche du but? Après, il y a encore beaucoup de choses à affiner, puisque la simple distance, par exemple, ne suffit même pas à, si on veut être encore plus précis, à qualifier forcément la qualité d'une occasion. Si on prend où sont situés les défenseurs, par exemple, pour parler d'un gardien, est-ce que les défenseurs sont devant le ballon et donc du coup il y a de très fortes probabilités que le ballon soit contré? Est-ce qu'il est tout seul face au gardien? Ça, c'est encore des trucs qui doivent être affinés en fait.
Ouais, en fait, ce modèle de probabilité qu'un tir finisse au fond, enfin, en fait, c'est même pas qu'un tir finisse au fond, c'est vraiment la qualité de la position. Mais il est très complexe, c'est un modèle probabilistique qui prend plusieurs variables en compte, notamment la distance, comme tu l'as dit, mais aussi le nombre, la densité de joueurs devant, l'angle au but, la position du gardien. Donc, en fait, on peut complexifier ce modèle avec beaucoup de variables.
Et aussi, d'ailleurs, si c'est son pied fort ou son pied faible, ça, on l'a pas non plus.
Ouais, si c'est son pied fort, son pied faible, c'est dans le modèle. Si c'est de la tête ou du pied, voilà. L'idée, c'est qu'en fait, le modèle, il soit le plus simple possible, mais le plus reproductible possible.
Alors, une de tes dernières vidéos sur Instagram qui m'a beaucoup plu, notamment, concerne le pressing. Parce qu'aujourd'hui, dans un football de plus en plus physique, dynamique, le pressing revient souvent dans les débats, à la fois chez les entraîneurs, hein, mais aussi dans le grand public, dans les médias. Je vais prendre un exemple que je connais assez bien, c'est l'Atalanta,
Ouais.
puisque je suis beaucoup le championnat italien, et on lit ou on entend régulièrement que l'Atalanta est l'équipe qui presse le plus en Italie. Alors déjà, il faudrait définir ce que veut dire le plus.
Ouais.
Et ensuite, effectivement, l'Atalanta a un jeu, elle, ultra dynamique, avec beaucoup, beaucoup de mouvements de joueurs. Et ça donne, on parlait de biais cognitif tout à l'heure, ça donne l'impression qu'ils courent beaucoup plus que leurs adversaires. Sauf que quand on regarde la data, les chiffres, le club de Bergame n'est que 9e de Serie A quand on regarde le nombre de kilomètres parcourus par les joueurs. Ça veut donc dire qu'ils ne pressent pas plus, puisqu'au final, il y a 8 équipes qui avalent plus de kilomètres, et ça veut
Ouais.
dire qu'ils pressent mieux. Et justement, dans ta vidéo, que je recommande, tu évoques la quantification du pressing à travers deux stats, et on va les évoquer ensemble, PPDA et Challenge Intensity. Peux-tu nous rappeler la définition de ces deux métriques d'abord pour poser les bases de la discussion?
Alors en fait, c'est l'enjeu de cette vidéo. D'abord, il faut bien comprendre ce qui est important, je pense, pour les auditeurs, c'est de comprendre comment on passe d'une data à une métrique. Une data, c'est quelque chose de brut qui porte peu d'informations. Et une métrique, c'est comment on combine ces datas-là pour en obtenir de l'information qui est beaucoup plus pertinente. Du coup, ce PPDA et ce Challenge Intensity, c'est ce qu'on appelle deux métriques. Elles combinent des datas pour donner plus d'informations sur le pressing. Donc en fait, pour faire simple, il y en a une, le PPDA. Elle sert à montrer combien une équipe fait de passes avant une action défensive. Voilà, donc ça veut dire que globalement, plus mon équipe laisse la possibilité à l'équipe adverse de faire des passes, moins je presse.
Ouais.
L'autre métrique, elle a pour but de montrer le nombre d'actions défensives que mon équipe fait par minute de jeu défensive. Autrement dit, plus je fais d'actions défensives, donc par exemple un tacle, une faute, une interception, un duel défensif, par minute défensive, plus j'ai un caractère à avoir un fort pressing.
Par exemple, c'est quand vous n'avez pas le ballon, combien de fois vous essayez de le récupérer
Voilà.
par minute, en fait, pour essayer
Exactement.
d'être le plus simple possible. Et justement, si on prend les 5 grands championnats européens sur la stat du Challenge Intensity, alors moi j'utilise WhoScored pour cette stat-là, on voit plein de clubs moyens, entre guillemets moyens, hein, c'est pas péjoratif, si on parle en termes de budget par exemple, qui ne font pas partie donc des plus gros clubs de leur championnat, être bien placés dans ce classement du Challenge Intensity. Je vais prendre quelques exemples, Southampton en Angleterre, Retafe en Espagne, Osasuna également en Espagne, la Real Sociedad également en Espagne, Bologne et l'Atalanta en Italie. Selon toi, ça, enfin, selon moi, et du coup, je veux bien ton avis, ça tord quand même pas mal le coup à l'idée qu'avoir un jeu ambitieux, alors c'est dans cette expression-là, le pressing pour la récupération rapide du ballon fait partie de cette ambition, plutôt que de défendre bas, subir et puis éventuellement lancer des contres. C'est quand même plus ambitieux de vouloir récupérer le ballon très haut sur le terrain que d'attendre très bas. Finalement, ça montre que c'est pas réservé qu'aux gros clubs et qu'en fait, c'est pas forcément une question de moyens et donc de qualité de joueur, mais plus une question de volonté et de comment réussir à impliquer les joueurs psychologiquement, mentalement, les préparer pour effectuer ce travail-là.
Ouais, c'est clair. C'est clair que le Challenge Intensity Index, par exemple, c'est clairement une métrique qui révèle de la capacité des joueurs à se donner et à être à 100% sur le pressing. Après, ce que ne transmet pas comme information ces données, c'est la qualité du pressing. Ça veut dire que, par exemple, Liverpool, ils ont un jeu où ils sont proches des joueurs adverses, mais ils sont rarement en train d'essayer d'aller intercepter ou faire un tacle ou faire un duel défensif. Par contre, quand ils le font, c'est que c'est le bon moment et ils récupèrent la balle. Du coup, ils se font... Du coup, cette métrique-là, il faut bien la comprendre dans son ensemble, qu'on peut aussi faire un pressing très efficace qui oriente l'équipe adverse sans pouvoir faire d'interception ou faire d'action défensive.
Tout simplement, rien que la position des joueurs proches des adversaires est une action défensive quelque part. Elle n'est pas comptabilisée en tant que telle. Mais ça évite de faire des sprints beaucoup plus longs, être proche, ça permet de contrôler tranquillement, entre guillemets,
exactement.
On va dire ça comme ça.
Exactement, mais c'est ça, dans les données, ça se voit pas, quoi.
Ouais, mais c'est là aussi où la data, qu'on dit très jeune dans le football, a encore beaucoup de choses à livrer, à affiner même, en fait, pour réussir à... Alors après, le vrai débat, c'est est-ce qu'on peut... Dans le football, un sport qui est plus complexe, par exemple, avec beaucoup moins de phases arrêtées que la NBA, que la NFL, etc. Est-ce qu'on peut aller aussi loin dans le foot, en termes d'affinage de stats, de précision de stats, que des sports à phases arrêtées? Quel est ton avis là-dessus?
Moi, je pense qu'on ira beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, alors, on va aller beaucoup plus loin en termes de données. Parce que, évidemment, comme on multiplie le nombre d'interactions entre les joueurs et qu'on multiplie en fait les différentes phases, on va avoir, à mon avis, bien plus de data que dans ces sports mécanisés comme le baseball, où en fait il n'y a pas d'interpénétration, ou en basket c'est un peu différent, mais on va avoir beaucoup plus de data. Par contre, ce qu'on n'aura jamais, c'est la prédictibilité de ce qui va se passer vraiment. Par exemple, en Formule 1, les data, c'est terrible parce que ça leur permet de dire « Ok, on change le pneu dans 3 minutes 30. Ok, on rentre au stand dans 2 minutes 45. » Et en fait, tout est optimisé pour que ce soit à la microseconde près, tout soit parfait, quoi. En foot, on ne pourra pas faire ça parce que c'est beaucoup moins prédictible que la Formule 1. Un pneu, on sait que si la météo, elle est comme ça, si le sol, il est comme ça, il crame en 2h30. Donc, on fait une rentrée au stand. En foot, c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus d'incertitudes, il y a des interactions, il y a des facteurs motivationnels. Donc, on n'arrivera pas à avoir un niveau de prédiction aussi bon que dans ces sports-là. Par contre, les datas, elles vont clairement exploser le nombre de datas possibles, quoi.
Et donc, tu penses qu'il y aura de plus en plus de postes de data scientist, par exemple, dans les clubs? C'est quelque chose qui va se développer, qui est encore un peu à la marge, hein, sauf dans les très grands clubs qui ont compris l'importance de la data au quotidien et qui ont créé des postes spécifiques dans leur staff. Tu penses que c'est quelque chose qui va du coup beaucoup se développer au niveau des clubs?
Je pense que ça va se développer. Après, le foot, c'est quand même un milieu particulier que je découvre, mais qui fonctionne pas toujours à la méritocratie, je dirais. Et donc, il faut comprendre, il faut qu'il y ait des dirigeants qui aient cette vision-là. Après, voilà, c'est des éléments importants. Je pense notamment à Liverpool. Ils ont deux gars qui sont assez exceptionnels. Mais je veux dire, ils n'ont rien du milieu du foot. C'est des physiciens. Voilà. Par contre, eux, ils font clairement grandir le foot avec des modèles scientifiques. Là, je parle du pitch control, par exemple, qui est quelque chose qui montre comment les joueurs contrôlent les espaces sur le terrain. Voilà, c'est difficilement applicable encore à l'entraînement, mais par contre, ils vont sûrement avoir un impact dans les 15-20 ans, très grand. Mais ils ont peu de relations avec le staff, ils ont peu de relations avec la victoire du week-end. Donc, c'est vraiment des visions qui sont importantes. Et il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas les moyens d'avoir de tels départements qui ne servent pas à gagner le week-end, quoi, globalement.
Avant de boucler l'entretien avec la dernière question, Mathieu, je repense à quelque chose concernant l'analyse vidéo. Tu parlais de Liverpool et ça m'a fait penser, tu sais, à leur spécialiste des touches qu'ils ont embauché pour
Ouais.
travailler ce système de jeu. Est-ce que toi, dans ton métier, les situations arrêtées prennent beaucoup d'importance et du coup, en NBA, on fait des temps morts pour mettre en place des schémas dans les moments importants, des schémas très précis dans les moments importants. Est-ce que tu as le sentiment que dans le foot, on va arriver à un séquençage de plus en plus important des différentes phases de jeu, à la fois dans ton métier, mais aussi dans le fait que les staffs vont s'élargir avec des spécialistes. Alors, il y a les spécialistes des coups francs, les spécialistes des touches, etc. Comment tu vois l'évolution un peu de tout ça?
Sur ça, je pense vraiment que ça va exploser. Il y a par exemple, il y a un petit Frenchie qui s'occupe des coups de pied arrêtés à Manchester City.
Ouais.
Je pense vraiment que ça va exploser. Pourquoi? Parce que, par exemple, le nombre de buts sur coups de pied arrêtés, il est colossal. Il est, je sais pas, on va dire, sans dire d'erreur ou de faire de généralité, mais ça doit être entre 20 et 25%. Bon, bah voilà, quand vous savez que vous marquez entre un quart. Enfin, vous marquez un quart de vos buts sur coup de pied arrêté. Ça veut dire que si on fait une traduction littérale bête et méchante, ça veut dire que globalement, vous devez passer un quart de votre temps à vous entraîner à ça.
Ouais.
Or, bon, c'est évidemment pas possible, mais or, voilà, dans beaucoup de clubs, je pense que les coups de pied arrêtés, c'est 5 minutes à J-1, 10 minutes, 15 minutes à J-1, et puis voilà. Donc, évidemment que quand on sait qu'on marque un quart de nos buts sur coup de pied arrêté, ça change un peu la donne.
Et toi, dans ton travail, du coup, tu passes beaucoup de temps sur ces phases arrêtées?
Je passe pas beaucoup de temps parce que je me fais piéger par un biais cognitif qui fait qu'on marque pas mal de buts sur coup de pied arrêté et puis on n'en prend pas globalement. Et du coup, bah, je me fais un peu piéger par ça et puis c'est pas quelque chose que j'ai priorisé actuellement, mais c'est quelque chose que j'ai fortement dans la tête et que ça risque d'arriver dans un futur très proche.
Alors on arrive au bout de l'entretien et la dernière question est toujours identique comme la première pour tous les invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines? Est-ce que tu as un nom en particulier, auquel cas je suis tout ouïe, à me soumettre ou plus simplement un métier que tu aimerais découvrir puisqu'on a déjà fait du coup l'entraîneur avec Jean-Marc Furlan, le recruteur avec Enzo Djebali, on a fait l'analyste vidéo avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres métiers que tu aimerais découvrir à travers ce podcast?
Ouais, je pense, j'ai pas de nom en tête spécialement, mais peut-être la préparation physique quand même,
Ouais.
qui pour moi, en tout cas dans notre club, joue, je pense, un rôle majeur sur la quantité d'entraînement, à quelle intensité, à quel moment, comment on se repose, comment on se nourrit. Franchement, c'est vraiment des pièces maîtresses dans un club, je pense. Et ce serait vraiment intéressant de voir comment ils structurent. Bah, j'ai un peu des idées sur ça, évidemment, parce que je suis dans un club au quotidien, mais voilà comment ils structurent leur semaine, à quel moment ils sont en repos, à quel moment ils s'entraînent. Voilà, c'est des moments qui. C'est des questions aussi en termes de data qui m'intéressent, parce que voilà, les données physiques, c'est quand même aussi important que les données de jeu, quoi.
Eh bien, petit spoiler, c'est prévu de parler préparation physique prochainement dans ce podcast.
Et tu as le nom ou pas encore?
J'ai pas encore le nom, je le donnerai quand ça sera enregistré, mais sache que ta suggestion est déjà prise en compte au niveau de ce métier-là, et on verra le nom un petit peu plus tard. Merci Mathieu Féjean, en tout cas, pour ta disponibilité déjà, ensuite pour la qualité de cet entretien, et puis on te souhaite évidemment bon vent pour alors, la suite ou non de la saison en Suisse. Réponse prochainement, mais en tout cas pour les prochains mois avec le Servette de Genève et ton taf de analyste vidéo, analyste de la performance, et aider ton entraîneur à pousser la performance des joueurs du Servette au maximum. Merci Mathieu.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview, c'est en effet une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.